France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourbon.
Caroline tenait à prendre les choses en main. Elle consultait maintenant les papiers administratifs que nous avions emportés à la hâte. Notre dossier de surendettement la stupéfiait. Elle tournait nerveusement les pages, des crédits, des taux d'intérêt mirobolants, des pénalités. Je tentais de relativiser. Les problèmes d'argent avaient toujours existé, ils faisaient partie de notre histoire. Elle le savait, son père parfois lui empruntait de petites sommes qui lui permettaient de ne pas franchir le découvert autorisé et qu'il lui rembourserait plus tard. Mais la lumière crue du moment changeait tout. Scannait notre vie comme une bombe à retardement, ravivait même sans doute des souvenirs douloureux, ces peurs que les enfants enfouissent pour ne pas ajouter à la difficulté. Caroline devait avoir 11 ou 12 ans quand elle avait vu huissier et déménageur débarquer chez nous et tout emporter à part son lit et ceux de ses frères, sans que son père puisse intervenir. Il était alors au chômage. Je me rappelle le regard terrifié de ma fille à mon retour du travail. Elle avait pris l'incident de plein fouet. J'avais essayé de la rassurer. « Ce n'est pas grave, lui avais-je dit. Ce ne sont que des meubles. On en rachètera. » Je faisais comme toujours, comme font ceux qui ont déjà tout perdu, ne pas craquer, tenir, tandis que tout vacillait sous ses pieds. C'était probablement la laisser trop seule et démunie face à l'impuissance de son père et à l'insouciance affichée de sa mère. Tout cela, à présent, ne demandait qu'à ressurgir. Nous rejouions exactement la même scène à des décennies d'écart, mais entre adultes, cette fois. Elle paniquait et je calmais les choses. Nous avions toujours jonglé. Nous avions même divorcé sans nous séparer en 1999, afin d'éviter que mon salaire ne soit saisi pour rembourser les dettes de Dominique. Nous étions remariés en 2007. Peut-être David, Caroline et Florian en avaient-ils conclu que la situation s'était assainie, que leurs parents formaient un couple miraculeux et inséparable, comme on n'en fait plus. La maison de Mazan avait dû finir de les en convaincre. Elle était devenue le théâtre de leurs vacances, de celles de leurs enfants. Bien sûr, c'était au-dessus de nos moyens, trop idyllique pour nos origines modestes et le parcours professionnel chaotique de Dominique. Nous n'étions évidemment pas propriétaires. Mais rien ne m'inquiétait tant que je pouvais payer les 1200 euros de loyer. Nous vivions sur ma retraite, Dominique remboursait ses dettes. Dominique, vous l'avez peut-être deviné, c'est Dominique Pellicot et ses lignes sont extraites de « Et la joie de vivre », le livre de Gisèle Pellicot. Judith Pérignon, qui l'a écrit avec elle, nous rejoindra dans la deuxième partie de cette émission sur la dette patriarcale à propos d'un autre livre, celui de l'économiste et sociologue Isabelle Guérin, qui est cette semaine l'invitée de la suite dans les idées. Bonjour Isabelle Guérin.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'IRD et au CESMA et socio-économiste, disais-je, et vous publiez à la Découverte dans la collection Économie politique ce livre, La femme endettée à l'ombre de la finance mondialisée. Alors, on va revenir dans la deuxième partie avec Judith Pérignon sur ce grand livre qui est La joie de vivre, en proposant une manière de le lire peut-être assez différente de celle qu'on a pu entendre jusque-là, mais c'est juste l'une des dimensions de cette histoire et de ce livre. Cette dimension, celle de la finance et de la place des femmes dans la finance, non pas les femmes, les rares femmes qu'on trouve dans les directions des grandes entreprises financières ou dans les ministères parfois, mais bien toutes les femmes en fait. Toutes les femmes non seulement en France, mais également dans beaucoup d'autres pays que vous avez arpentés, dans lesquels vous avez longtemps travaillé, en particulier en Inde, mais pas seulement, au Sénégal, au Maroc. Toutes les femmes sont, dites-vous, prises dans la finance, non seulement prises dans la finance, mais y jouent un rôle particulier et un rôle extraordinairement important, Isabelle Guérin.
Oui, le point de départ de ce livre, c'est justement ce contraste entre le haut de la pyramide, qui est surtout le fait d'une poignée d'hommes souvent blancs, très diplômés, qui gagnent souvent des sommes colossales grâce à des compétences supposées extrêmement sophistiquées, qui prennent des risques, etc. Et puis quand on regarde le bas de la pyramide, quand on regarde les millions de personnes qui font tourner cette machine financière, eh bien on s'aperçoit qu'émerge la figure de la femme endettée, qui est en fait l'héroïne de ce livre, à qui j'essaye de rendre justice, et qui fait tourner la machine financière. Pourquoi ? Parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, on le dit pas suffisamment, mais aujourd'hui, un nombre considérable de familles à l'échelle globale sont chroniquement endettées. On s'endette pas simplement pour acheter une voiture ou pour acheter un appartement. On s'endette pour remplir le frigo, pour payer le médecin, pour payer d'autres dettes. On a fait un travail assez minutieux avec des collègues pour quantifier cela, puisqu'aucun chiffre aujourd'hui n'existe. Et donc on arrive à ce chiffre, un tiers au bas mot, hein, c'est très conservateur, de familles à l'échelle globale vivent chroniquement de manière endettée. Et qui gère ces dettes? Et c'est un vrai travail, tout aussi complexe, et certainement beaucoup plus complexe que les traders boursiers, ce sont des femmes.
Ouais, il n'y a pas de Master 2 en finance pour fort en maths qui prépare à ce type d'expérience. Vous avez commencé, vous êtes économiste d'abord, puis vous êtes devenu sociologue progressivement d'une certaine façon, et puis même historienne, et puis beaucoup de choses dans les sciences sociales. Mais vous avez commencé, j'aimerais qu'on reparte de là, d'un travail de terrain en Inde en particulier. Racontez-nous.
Oui, donc je débarque en Inde il y a une vingtaine d'années, en m'apercevant très vite que les familles avec auxquelles je m'intéresse sont très endettées. Je suis économiste de formation. Les économistes, ils aiment bien les chiffres, même s'il faut, beaucoup s'en méfier. Mais donc, on est quand même dans un contexte où ce qui n'est pas compté ne compte pas. Donc, mon premier effort consiste à quantifier ces dettes, ce qui a supposé un travail assez considérable, puisque ces dettes sont fragmentées. Certaines dettes sont qualifiées de dettes, d'autres ne sont pas qualifiées comme telles. Donc, il y a tout un travail ethnographique qui précède, en fait, le travail statistique pour mesurer ces dettes et arriver à des chiffres qui sont complètement astronomiques. Je vous en donne quelques-uns. Dans le contexte actuel, dans le sud de l'Inde, donc, sur 100 roupies que les familles gagnent, 70 sont consacrées au remboursement des dettes. 30, près d'un tiers, sont consacrées au remboursement des intérêts. Deuxième étape, c'est de désagréger ceci par sexe. Aucune statistique n'existe sur ces questions-là. On considère que l'endettement familial est une espèce de tout indifférencié, comme si cela n'avait aucune importance, alors qu'en fait, il y a une véritable division sexuelle de la dette qui existe. Et donc, cela suppose aussi tout un protocole extrêmement précis permettant de dissocier qui emprunte quoi et qui rembourse quoi. Enfin, je crois que ça, c'est la question centrale, c'est qui rembourse, en fait. Et je crois que si on veut vraiment comprendre la dette aujourd'hui, il faut savoir, il faut s'intéresser à qui paye ses dettes. Et là, c'est une facette particulièrement saillante de cette division sexuelle de la dette. Il y en a plusieurs, mais celle qui est la plus frappante, c'est cette hyper-spécialisation des femmes. Dans de très nombreux contextes, cette hyper-spécialisation dans le remboursement. Je suis femme et donc je paye.
On va voir pourquoi plus tard, y compris des femmes qui sont très pauvres, en fait, deviennent centrales dans les dispositifs mis en place par les institutions financières qui viennent vers elles les chercher. Mais avant ça, on a bien compris qu'à un moment, vous prenez les chiffres, vous faites les additions, et puis vous voyez qu'il y a des choses qui ne rentrent pas dans les chiffres. Donc il faut, en quelque sorte, comme disait Bruno Latour, vous déséconomiser. C'est-à-dire ne plus être simplement économiste, même en faisant de l'ethnocomptabilité, comme l'a fait Geneviève Pruvot aussi, ou d'autres chercheuses qui ont travaillé récemment sur ces économies domestiques et sur la manière de mettre en chiffres, en comptes, en colonnes, tout un tas de tâches, notamment. Il faut sortir de là. Comment vous avez fait? Comment vous avez ouvert votre regard, au fond, Isabelle Guérin?
Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'est-ce que c'est qu'une dette? Une dette, c'est je dois quelque chose. Je dois de l'argent, je dois du temps, je dois des soins, je dois des obligations, je dois du sexe. Donc, il y a déjà ce premier constat qui consiste à élargir notre compréhension de la dette, à comprendre que c'est un rapport social qui est imbriqué dans des relations de pouvoir diverses et qui s'appuie sur des relations de pouvoir et qui les renforce en retour. Donc, ça, c'est la première ouverture que des anthropologues, des historiens, des philosophes ont fait. Donc, jusque-là, il n'y a rien de très nouveau. La nouveauté, c'est de regarder la dimension patriarcale de ça. On y reviendra probablement. La deuxième ouverture, c'est de rester sur des questions chiffrées, mais de les regarder autrement. C'est-à-dire que vous avez évoqué l'ethnocomptabilité. Alors c'est vrai qu'avec mes collègues indiens, on a effectivement pratiqué cette méthode qui consiste à tenter de recenser de la manière la plus exhaustive possible l'argent qui rentre dans une maisonnée et l'argent qui sort. Que ce soit des revenus, des dons, des dettes, et qui fait quoi? Donc là, c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte de l'hyperspécialisation des femmes dans les remboursements. Et c'est là aussi où on s'est rendu compte de l'hyperproductivité de ces femmes. Si on s'en tient à des indicateurs comptables classiques, On regarde les revenus. Les revenus féminins sont en moyenne assez faibles par rapport aux revenus masculins. En revanche, si on regarde ce qui fait tourner la maisonnée, c'est une circulation incessante de liquidités dont les femmes ont la charge. Et si on additionne toute cette rotation, ce chiffre d'affaires en quelque sorte de la maisonnée, les femmes deviennent hyper productives. Et ce qui pose plein de questions au-delà de ce cas indien qui peut sembler un peu exotique. Si on s'amusait entre guillemets à faire cet exercice dans d'autres contextes comme en France, on s'apercevrait certainement que les femmes sont hyper productives également.
C'est elles qui font, dites-vous, rouler la dette.
C'est elles qui font rouler la dette, voilà, cette expression qu'on utilise plutôt pour la dette publique, hein, qui consiste à s'endetter en permanence pour rembourser ses anciennes dettes. Et effectivement, ce travail, c'est un vrai travail, donc j'insiste beaucoup sur ce terme dans le livre, hein. Le travail c'est quoi ? Le travail c'est des activités qui sont répétitives, chronophages, qui demandent des compétences spécifiques et qui créent de la valeur. Gérer la dette, c'est tout ceci à la fois. Ça prend beaucoup de temps. On a compté ceci aussi grâce au travail d'ethnocomptabilité en montrant le nombre absolument incalculable de transactions financières que les femmes font au quotidien. Des compétences cognitives. La plupart de ces femmes ne sont pas lettrées, donc c'est le tout dans la tête qui prévaut, comme on peut trouver aussi dans un certain nombre de milieux populaires en France, avec des techniques extrêmement sophistiquées visant à cloisonner les entrées, les sorties, pour s'assurer que tout va être bien remboursé, en élaborant aussi ce qu'on peut appeler des arts de la mémoire, qui consistent à fixer dans l'esprit des scènes, des émotions, l'émotion que le créancier avait ce jour-là, est fixée dans la tête pour se souvenir de l'échéance et du montant à rembourser.
On est loin du micro-trading, hein, à haute fréquence, d'une espèce de technologisation de ces flux financiers aujourd'hui, qui sont ceux qui sont donnés à voir par la culture populaire en règle générale.
Alors, on est loin de cela, mais on est face à des techniques extrêmement sophistiquées.
Mais alors, comment elles passent, en particulier d'une génération à l'autre? Je disais tout à l'heure en souriant qu'il n'y avait pas de diplôme, il y a des socialisations à tout ça.
La transmission de mère en fille, l'observation, et puis l'apprentissage, et avec des il y a une hyper-productivité de ces femmes, mais une productivité qui est aussi très inégale, hein, avec des femmes qui s'en sortent très bien, qui ont développé au fil du temps tout un tas de compétences, des compétences également relationnelles, des compétences sexuelles. Parce qu'il y a peut-être un moment donné où il faut parler du fait que, vous le disiez tout à l'heure, ces femmes n'ont pas grand-chose, quasiment rien. Une analyse bancaire classique arriverait à la conclusion qu'elles sont insolvables. Or, en fait, tout un tas de créanciers s'adressent à elles en priorité. Pourquoi ? D'une part, parce qu'elles payent. Hein, comme je le disais tout à l'heure, être femme, c'est payer, c'est devoir, et c'est donc payer.
Elles sont fiables.
Elles sont fiables.
Elles sont solvables, même si elles n'ont pas beaucoup d'argent.
Parce qu'il faut payer. Il faut payer. Alors, vous allez me dire, il faut payer, mais au bout d'un moment, comment on fait quand on n'a pas d'argent? Donc, on roule la dette. Ça, c'est la première technique qui consiste à s'endetter en permanence auprès d'un nombre incalculable de sources, hein, 5, 10, 15, 20 prêts à la fois, hein, qui sont avec un véritable art du jonglage. On met le mari au travail, on met les fils au travail, donc les hommes ne sont pas complètement absents de ce processus. On vend des biens, la migration joue un rôle central, hein, avec des hommes qui vont travailler, des fils qui vont travailler, donc on voit bien là à quel point ce processus se fait tourner l'ensemble de la machine. Hein. Et puis, on utilise son corps. Et ça, c'est quand même quelque chose de central. J'ai mis un certain temps à l'observer, grâce à des collègues indiens, Santosh Kumar et Venkata Subramanian, qui ont eu un œil très aiguisé sur ces questions, que je n'avais pas. J'étais déjà beaucoup sortie de ma zone de confort en tant qu'économiste. Et donc, un argument central du livre, c'est quand même à quel point le corps des femmes est mis à l'épreuve.
Ça, c'est sur le terrain indien que vous l'avez observé pour la première fois. Mais vous avez essayé de comparer avec d'autres contextes très différents. Je le disais tout à l'heure, en Afrique, dans deux pays, le Sénégal, le Maroc, mais aussi en France.
Mon premier terrain était en France. Mon premier terrain était en France, dans ce qu'on appelait à l'époque le Nord-Pas-de-Calais, où je travaillais avec une association spécialisée dans la prévention du surendettement. Je m'étais étonnée au début de ne voir que des femmes. Ça avait semblé assez classique. Les personnels associatifs avaient haussé les épaules en disant « bah oui, c'est comme ça ». J'ai revisité ce terrain, en fait, des années après, en me disant, mais finalement, en retrouvant finalement des choses très similaires, alors sans être en mesure d'aller jusqu'à l'intimité de ces femmes, ce que j'ai eu là, alors que j'ai pu avoir ça dans le contexte indien où je suis restée très longtemps. Mais avec du recul, et en revisitant, et en relisant mes notes, je vois à quel point le corps de ces femmes était également mis à l'épreuve. Hein, la question de la manière dont cette dette est inscrite dans la chair des femmes, dans leur estime de soi, dans leur intériorité, dans un sentiment lancinant, permanent, omniprésent, de honte et de culpabilité.
Vous la qualifiez de patriarcale, cette dette. Comment vous pourriez définir cette dimension-là, sachant que c'est ce système patriarcal de domination qui est à l'œuvre et en même temps qui confère à ces femmes, vous venez de le dire avec beaucoup de détails, une place absolument centrale, y compris jusque au pilotage économique des entités en question.
Dette patriarcale, donc effectivement, c'est une idée centrale du livre qui consiste à dire que, je l'ai déjà dit, je le redis, être femme dans un grand nombre de circonstances, pas partout. Et il y a aussi une dimension de construction de cette dette patriarcale qui est importante pour penser d'autres futurs. Cette dette patriarcale, c'est un mélange de dette morale, de dette financière et de dette sexuelle. Dette morale liée à la fois à un sentiment infini d'obligation. Tout le monde a des obligations. Les hommes aussi ont des obligations. Les obligations féminines, dans un certain nombre de circonstances, se caractérisent par leur caractère à la fois surabondant et permanent. Je suis femme, donc en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que fille, en tant que grand-mère, j'ai tout un tas d'obligations que je n'arrive jamais à assumer, ce qui entraîne un sentiment permanent de culpabilité. À cela s'ajoute un sentiment tout aussi lancinant, omniprésent, de honte. Je suis inférieure. Hein, le masculin l'emporte sur le féminin. La langue française est quand même particulièrement éloquente. Et donc, Simone de Beauvoir l'avait tout de suite identifié, cette infériorité congénitale qui condamne les femmes à ce sentiment permanent de honte. Et donc, par rapport à ce sentiment permanent de culpabilité, de honte, je paye mes dettes financières. Hein, je paye pour mes propres dettes, celles de l'époux, celles du fils, etc. Et à cela se rajoute une dette sexuelle, qui est à la fois un mélange de dépendance matérielle et de normes morales sur les questions de sexualité. Dans un grand nombre de circonstances, la sexualité des femmes ne leur appartient pas. La sexualité des femmes est dédiée à la procréation, est dédiée au sexe conjugal, est interdite de plaisir. Si j'ai du plaisir, je me sens coupable. Et à cela se rajoute une dépendance matérielle. Si je suis dépendante matériellement, qu'est-ce que j'ai à donner, sinon mon corps? Et donc tout cela s'entremêle pour aboutir à ce que j'ai qualifié de dette patriarcale.
Cet entremêlement, vous l'avez observé dans ces enquêtes de terrain, vous l'avez aussi lu comme lectrice. Il y a beaucoup de références, vous parliez de honte à Annie Ernaux, à Chimamanda Ngozi Adichie, à Toni Morrison, à Zola. Énormément de ce que vous décrivez est documenté déjà à diverses époques, dans différents contextes, assez différemment, mais en même temps, en mettant en valeur un certain nombre de choses très récurrentes. C'est ça qui est frappant.
Oui, ce qui m'a beaucoup occupée, dans ce livre, je retrace finalement 25 ans de travail de terrain. Et j'ai mis très longtemps à comprendre pourquoi les femmes payent leurs dettes. La question peut sembler simple, mais avec vraiment cette volonté de comprendre d'où ça venait, pour véritablement, avec l'idée que on pourrait s'arrêter là et dire « Ok, être femme, c'est payer ses dettes ». Mais il y a une dimension tragique, parce que si on s'arrête là, on ne sort pas de ça. Cette obsession là qui m'a hantée toutes ces dernières années, c'est de parcourir, y compris à travers la littérature, tout un tas de situations pour essayer de comprendre l'origine de cette dette patriarcale. Et c'est vrai que la littérature, un petit peu le cinéma aussi, m'a beaucoup aidée, à la fois parce que curieusement, les sciences sociales se sont, à mon sens, insuffisamment intéressée à la dette. Je me suis beaucoup nourrie dans d'anthropologie, de philosophie, d'histoire, de travaux féministes de toutes sortes. Mais curieusement, cette
vous faites
de
référence
la dette,
au travail de Benjamin Lemoine, récent mais important.
Tout à fait, tout à fait. L'ordre de la dette. Donc, je rajouterais l'ordre patriarcal de la dette. Ce que donne à voir la littérature, c'est cette dimension très sensible, en fait, hein, que même les ethnographies les plus poussées ont parfois du mal à laisser transparaître. Et les autrices que vous citiez, à travers cela, on sent bien que cette dette patriarcale, elle prend des formes multiples suivant les milieux sociaux. Hein, c'est la honte de classe de Annie Ernaux, hein, qui dit que finalement, la honte, c'est une manière d'être au monde. Hein. C'est, je crois que c'est les termes qu'elle utilise. C'est une honte coloniale, Hein, quand on se retrouve tiraillé entre les normes de son pays d'origine et puis les normes que la colonisation a essayé de nous imposer, c'est une honte liée à l'appartenance sexuelle. Hein, quand à l'identité de genre se rajoute une appartenance sexuelle considérée comme déviante. Donc il y a tout un tas de manifestations multiples de cette dette qui rejoint ce que les féministes qualifient d'intersectionnalité, hein, et avec des cumuls de domination qui exacerbent cette réalité de la dette patriarcale.
Alors, le livre est construit autour de différentes idées fortes, certaines que vous avez déjà en partie développées, l'idée qu'il y a un travail de la dette en particulier. Sur le corps, l'idée, peut-être vous pourriez l'expliciter, que c'est pour vous quelque chose de collatéral, en fait.
Collatéral. Qu'est-ce que c'est qu'un collatéral ? Si demain je veux emprunter à la banque va me demander un collatéral. C'est-à-dire quelque chose que la banque peut saisir si jamais je ne rembourse pas ma dette. On l'a déjà évoqué, ces femmes de milieu populaire, en Inde ou ailleurs, n'ont pas de garantie physique. Très peu. Et donc, le corps fait office de collatéral. Avec là tout un continuum de situations, on pourrait s'arrêter au constat un peu basique, consistant à dire, une femme va coucher pour, il faut rappeler les choses par leur nom, pour obtenir un crédit ou pour éponger la dette. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un continuum de situations où le corps va être mis à l'épreuve de plein de manières différentes, qu'il s'agisse d'amadouer le mari pour que le lendemain d'une nuit où l'épouse aura satisfait ses exigences sexuelles ou ce qu'elle imagine être ses exigences sexuelle, pour que le lendemain il accepte de payer les traites, jusqu'à convaincre, amadouer, séduire ou répondre aux exigences d'un créancier, d'un prêteur, quel qu'il soit. Et suivant le type de créancier, cela peut passer par un sourire, une épaule dénudée, un ton ferme. Donc, tout dépend du créancier qu'on a en face de soi, jusqu'à la fellation, la pénétration. Et avec ce fil, et c'est là où le travail de la dette est à mon sens le plus subtil, ce fil extrêmement ténu, que l'on va retrouver dans de très nombreuses circonstances, où il s'agit à la fois d'utiliser son corps, de toutes les manières que j'ai pu décrire, tout en maintenant sa dignité et sa respectabilité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire être désirable sans être désirante, ça veut dire être... séduisante sans être séductrice, puisque a fortiori quand on vient de milieux populaires, où les milieux populaires, on le sait, les femmes sont souvent considérées comme hypersexuelles. Hein. Une femme pauvre, elle a son corps, donc elle couche. Voilà. C'est à la fois vrai, et en même temps, il y a cette quête permanente de dignité, de respectabilité, qui demande une énergie absolument considérable.
Tout ça n'exclut pas la présence parfois de l'amour. Il y a un chapitre qui s'appelle « Dette et amour » et qui rend compte de situations pour le moins complexes où peuvent apparaître des amants, par exemple.
Oui, alors c'est toute l'ambivalence de la dette. Donc la dette, c'est un rapport social qui est le plus souvent hiérarchique. Et en même temps, la dette crée aussi de l'attachement, du soin, de l'affection. Et là, je crois que pour véritablement comprendre ceci, et il m'a fallu quand même un certain temps pour démêler tout ça, toute une partie des recherches féministes m'ont beaucoup aidé. Ces recherches qui montrent à quel point l'intimité et la matérialité sont indissociables. Si on a une minute, je vais reprendre l'exemple qui m'a beaucoup aidé et que je donne toujours à mes étudiants dans l'introduction de ce fameux chapitre, qui est le film Sans filtre, qui avait eu la Palme d'Or en 2023.
Östlund, Robin Östlund.
Tout à fait. Ça. Et donc, vous avez le début démarre sur un yacht de luxe, que des gens riches, puissants, notamment un couple de mannequins. Tout va bien, tout le monde est heureux et boit du champagne. Jusqu'à ce que le yacht fasse naufrage, quelques rescapés atterrissent sur une île. Et là, les rapports de force s'inversent, puisque le pouvoir et l'argent ne servent plus à rien. Et c'est l'ancienne chef des toilettes, une hispanique à l'anglais très balbutiant, qui finalement est la seule à savoir faire du feu, à savoir pêcher, à savoir cuisiner et qui va donc prendre le pouvoir, y compris en exigeant des faveurs sexuelles du beau Karl, hein, le mannequin qui était un des héros de la première partie du film. Alors on pourrait y voir quelque chose de très cynique, même les pauvres et même les femmes finalement profitent de leur situation de domination. Moi je l'ai lu de manière très différente en observant que ce Karl finalement finissait par s'attacher à cette ancienne chef des toilettes, très impressionné par sa capacité de survie, par la protection qu'elle lui apporte, Et bon, cet exemple un peu anecdotique, mais qui fait écho à toutes ces recherches qui ont documenté de longue date à quel point le coup de foudre ne tombe jamais par hasard. Et qui a l'amour se construit dans des relations concrètes et est indissociable de sentiments de sécurité, de réconfort. Et donc ces créanciers qui aident ces femmes dans la durée en leur permettant d'accéder au crédit, en leur proposant des conditions de dette plutôt favorables, il faut toujours qu'elles payent. Attention, la relation reste très asymétrique. On peut aimer dans une relation très asymétrique. Et au fil du temps, certaines de ces femmes endettées finissent effectivement par tomber amoureuses de leurs créanciers. Mais on peut, là aussi, je crois que c'est important de désexotiser la situation. Prenons le cas des États-Unis, où on sait à quel point la dette étudiante atteint des sommets absolument abyssaux. L'amour familial est indissociable de cette dette. Je suis parent, je dois m'endetter pour plusieurs centaines de millions de dollars chaque année. Les calculs que je vais faire, les projections que je vais devoir mener, les efforts que je vais devoir faire pour rembourser, les projections sur est-ce que mon enfant va réussir, est-ce qu'il va y avoir un certain retour sur investissement, tous ces calculs sont inévitables et rythment l'amour familial. On pourrait prendre d'autres exemples. Au Chili, où là, c'est une ethnologue Clara Dehaene, qui a remarquablement documenté à quel point la dette s'infiltre dans l'intimité des familles en faisant et défaisant les familles. Si prendre soin de mes enfants, de mes voisins, c'est forcément m'endetter. Je pourrais multiplier les exemples, mais dans un monde dans lequel on vit, qui est saturé de dettes, la dette inévitablement s'infiltre dans les coins les plus intimes de nos existences.
Ce qui est frappant à vous lire, c'est que dans tous ces recoins de toutes ces existences, à plein d'endroits de la planète, on trouve ces choses communes au-delà de leurs différences. Et on se pose la question évidemment de caractère relativement immuable. C'est forcément historique, mais enfin ça existe depuis très longtemps. Néanmoins, c'est le sens de la fin de votre livre. On ne va pas rendre justice à toute la richesse de ce volume, mais vous ne pouviez pas ne pas ouvrir ce travail qui a commencé bien avant, dans le contexte qu'on vit depuis un certain nombre d'années, dans lequel la honte, pour reprendre une expression que vous utilisiez tout à l'heure, a commencé peut-être de changer de camp, et dans lequel la dette aussi doit, dites-vous, changer de camp.
Oui, je le disais tout à l'heure, mon obsession, ça a été véritablement d'essayer de décortiquer les processus de construction de cette dette, avec une approche que je pourrais qualifier de possibiliste, c'est-à-dire que les sciences sociales sont là pour dénoncer la violence des mécanismes d'exploitation, et le livre consacre une grosse partie de ces pages à cela. Et en même temps, il faut imaginer d'autres futurs. Il faut aussi être attentif à des interstices. Et donc, il y a un chapitre entier qui est dédié à des dettes réciproques, que ces femmes s'efforcent sans cesse de construire avec des voisines, avec des amants.
À la solidarité.
À des dettes qui sont réciproques. Je te donne, tu me donnes, et personne n'écrase l'autre. Et puis, la conclusion, effectivement, se plaide pour le fait que la dette doit changer de camp, avec ce constat qui est que, je pense qu'il y a une question centrale qui permet de comprendre le prisme de la dette, me semble-t-il, permet de comprendre tout un tas de choses des sociétés contemporaines. Qui doit quoi à qui et qui décide de ça? Est-ce que ce sont les femmes qui doivent, ou est-ce que ne sont-elles pas créancières, puisqu'elles passent leur temps à donner, à prendre soin, à payer? Elles tiennent le monde à crédit, en quelque sorte. Ce plaidoyer pour l'inversion de la dette, il s'articule avec d'autres formes de dettes, puisque la dette patriarcale n'est qu'une facette de ces dettes. On a aussi une dette coloniale. Est-ce que ce sont les pays du Sud qui doivent aux pays du Nord? Est-ce que ce ne serait pas l'inverse, après des siècles d'expropriation, d'extraction de toutes sortes, de pillage? La dette écologique? La dette sociale, est-ce que c'est l'État qui doit de l'argent au marché financier, ou est-ce que c'est l'État qui doit à ses citoyens à travers des services sociaux? Et donc le livre se termine en disant il faut rendre la dette à la vie, et c'est-à-dire la sortir de ce pouvoir des créanciers financiers pour la rendre à celles et ceux qui tiennent le monde, en quelque sorte.
On continue à parler de femmes endettées, c'est le titre de votre livre. Isabelle Guérin, La femme endettée à l'ombre de la finance mondialisée, après un extrait du nouvel album de Twisted Teens, Little Seed.
Little Seed by Twisted Teens.
take a bite.
I don't need a cover for the wagon. Pushing, I'm not taking nothing with me when I'm moving, but I can take a little satchel of seeds with me. Throw them out the window when the van is moving. When you come around again, the field is blooming. When you drive around again, the field is blooming.
La femme endettée, c'est le titre du livre d'Isabelle Guérin dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées. Un livre, comme on l'a dit, dans lequel on trouve un certain nombre de références littéraires. On ne trouve pas, parce que le livre a paru trop tard, une référence au livre de Gisèle Pélicaud et La joie de vivre, pardon, mais on aurait très bien pu la trouver. Ça m'a semblé une évidence. Bonjour Judith Pérignon.
Bonjour.
Vous avez écrit ce livre avec Gisèle Pélicaud. En fait, on pourrait même commencer par tout simplement remarquer, et c'est assez incroyable, que le premier emploi dans la vie de Gisèle Pélicaud, c'était dans une imprimerie qui imprimait des chéquiers. Et ça, 5 ou 6 ans après que les femmes aient le droit d'avoir un chéquier, d'ailleurs, parce que c'était le début des années 70, et si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 1965, la possibilité pour les femmes de disposer d'un chéquier. Mais au-delà de ce point de départ anecdotique, en fait, court tout au long de ce livre, et La joie de vivre, dans lequel Gisèle Pélicaud revient sur sa vie, cette question de la dette, et du rôle qu'elle joue, et du travail. On peut reprendre cette expression, du travail qui est le sien à côté de son autre travail, qui consiste à s'occuper de cette dette.
Oui, alors effectivement, c'est un mot qu'on peut déployer sur sa vie dans tous ses sens. La dette financière, les Pélicaud ont été un couple surendetté. La dette vis-à-vis des parents, la dette vis-à-vis des enfants, la dette sexuelle, puisque, encore une fois, son mari a dit qu'il avait voulu soumettre une femme insoumise, c'est-à-dire ce qu'elle n'a pas voulu lui offrir, il lui a pris en la soumettant chimiquement. Donc c'est vraiment un mot-clé de l'histoire des femmes, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, et donc de l'histoire de Gisèle Pélicaud, qui se définit comme une femme ordinaire. Et effectivement, on prend son histoire dès le début. Moi, j'ai l'impression que la vie a une dette avec Gisèle depuis le début, parce qu'elle n'a pas une enfance facile, elle perd sa mère très jeune, elle souffre très jeune, et elle va combattre la souffrance, d'où ce titre, et la joie de vivre. Et pourtant, cette vie qui a une dette vis-à-vis d'elle, Gisèle ne va cesser de creuser sa dette, alors que c'est une femme très combative, mais elle est toujours rattrapée par des dettes. Et l'ironie de l'histoire, pour reprendre l'aspect financier, le couple Pélicaud était très surendetté, et c'est Gisèle qui a travaillé toute sa vie, qui essayait de faire vivre la famille, et quand sa vie s'effondre, que son mari part en prison, elle reste avec le surendettement sur les bras, et elle va négocier difficilement, mais elle va faire appel à son dossier de surendettement. Elle va même être, il y a une scène comme ça dans le livre où elle est avec tous ces gens qui font appel, qui réclament un aménagement. Et on entend, je pense, les histoires des autres, la maladie, le chômage dans ces petits tribunaux. Et elle s'avance parce qu'elle ne veut pas dire tout haut devant les autres ce qui lui arrive. C'est-à-dire pendant 10 ans, son mari l'a violée, fait violer. Donc elle s'approche, elle murmure comme ça à ces gens qui ont son dossier entre les mains ce qui lui est arrivé et qui vont finalement réaménager ses remboursements. Ben, faut savoir que son dernier remboursement, c'était le mois dernier, au mois de février, alors que sortait Et la joie de vivre, un livre qui est sûrement sa vraie revanche, quoi.
Isabelle Guérin, vous l'avez terminé ce livre.
Oui, mais je viens de le lire. C'est bouleversant. Effectivement, s'il était sorti avant, je l'aurais évidemment cité parce que la résonance est frappante. Il y a un point, moi, que je voudrais souligner, c'est que l'envers de la femme endettée, c'est l'homme pourvoyeur. J'ai pas le temps maintenant de revenir là-dessus, mais on est face à cette dette patriarcale, elle est façonnée par des normes de féminité qui assignent les femmes à cette sexualité conjugale, etc., mais aussi à un rôle de femme au foyer, dépendante, qui continue encore aujourd'hui de perdurer. Et l'envers, c'est cet homme qui est supposé pourvoir aux besoins de la famille. Et moi, ce que je lis dans ce livre, c'est ce monsieur Pellicot, comme elle l'appelle, qui ne cesse d'enchaîner des petits boulots, intérim. Il finit par créer une entreprise qui laisse des dettes qu'elle vient juste de finir de payer. Et elle a cette expression, à un moment donné, on lui propose une promotion, parce qu'elle, assez vite, elle a un emploi stable qui fait vivre la famille. Et à un moment donné, on lui propose une promotion qu'elle a beaucoup de mal à accepter. Et elle a ces mots-là. C'était trop loin de la femme pudique, hein, je cite, venue arrondir le salaire de son mari. Donc elle se sent très mal à l'aise, en fait, dans cette position de pourvoyeuse. Et moi, et j'insiste sur le livre n'est pas à charge contre les hommes, hein, c'est contre un système patriarcal qui assigne d'un côté les femmes à des dettes infinies et de l'autre des hommes à un rôle de pourvoyeur que dans un certain nombre de circonstances, ils ne peuvent pas assumer et qui les assigne aussi au fait de devoir sans cesse démontrer qu'ils ne doivent rien à personne. Donc voilà ce qu'on m'a évoqué le témoignage de Gisèle Pellicot.
Mais c'était tout l'intérêt d'écrire et d'en parler ensemble avec elle, parce que par l'écriture, c'est des choses qui, dans le quotidien, enfin quand elle le vivait, et comme nous tous quand on vit, elle ne s'interrogeait pas là-dessus. Elle était faite comme ça. Et alors bon, avec ce qui lui est arrivé, elle est forcément obligée d'interroger son passé, et même en devant l'écrire, on a redécortiqué tout ça. Et c'était donc se défaire de cette vieille peau, effectivement, de ces schémas féminins. Au début, Gisèle, quand elle travaille, elle a des jeunes enfants, et elle se dit « Non, mais moi, je vais faire de l'intérim, effectivement, pour arrondir les fins de mois, et comme ça, je serai là avec mes enfants. » Et elle va faire carrière chez EDF pour une femme qui a arrêté l'école à 14 ans, qui n'a pas de diplôme, et qui, effectivement, va finir dans le département des pièces jointes du secteur nucléaire d'EDF, c'est pas rien, en travaillant avec des ingénieurs. Et Gisèle, c'est une autodidacte. Elle a appris, elle a énormément progressé dans sa carrière professionnelle, alors que son mari, qui avait des ambitions sociales, au contraire, qui ne voulait plus être électricien, qui voulait faire de l'immobilier, qui voulait avoir son entreprise, enfiler un costume et une cravate chaque matin, lui, à chaque fois, il se plantait. Effectivement, il plombait les finances familiales. Et Gisèle, sans l'avoir demandé, sans l'avoir cherché, elle décollait, elle impressionnait les gens. Mais elle ne voulait pas, elle se jugeait illégitime à cette place-là, et effectivement, là, il y a un éternel féminin qui est fascinant à raconter. Oui.
Ce qui est incroyable en lisant ce livre, c'est la réflexivité qu'on y trouve. Vous dites, après ce qui lui est arrivé, il fallait qu'elle regarde rétrospectivement toute cette vie, et ce que le livre déroule au fond. Et ce livre est une réflexion au sens d'une réflexivité, d'un travail. Et la question que j'avais envie de vous poser, Judith Pérignon, c'est précisément la place qu'elle-même a accordée à cette dimension économique et finalement l'articulation entre cette dimension économique, sa vie de couple, sa vie sexuelle. Je le rappelais en lisant un extrait au début de l'émission, c'est aussi cet endettement qui a conduit à un divorce, même s'il était plus ou moins de façade en fait, puis un remariage. Enfin, ces choses sont assez incroyables en fait.
Oui, alors je dirais qu'il y a deux choses. Je pense que la Gisèle s'est d'abord construite sur une immense faille affective, c'est-à-dire la mort de sa mère quand elle est petite fille, l'effondrement psychique de son père, une belle-mère qui la maltraite, un frère qui va mourir de très jeune de dépression, c'est la survivante de la famille. Donc elle, sa quête, je pense, quand elle rencontre Dominique Pellicot à 19 ans, quand elle se construit une famille, c'est une quête affective, une quête d'amour. C'est une femme, encore aujourd'hui, je dirais que ce qui la définit, c'est le lien, c'est l'attachement, c'est l'affection, c'est l'affectif. Et en même temps, c'est une génération qui se construit, c'est des enfants de l'après-guerre, qui vont connaître la société de consommation. Qui viennent d'origine, alors je dis il parce que lui aussi, hein, d'origine très modeste, et ils vont vouloir jouir de cette société de consommation, ils vont vouloir offrir à leurs enfants ce qu'ils n'ont pas eu, donc du confort, des clubs de vacances en Grèce ou en Espagne.
Quitte à s'endetter.
Mais tout ça se rejoint pour elle, c'est-à-dire que c'est l'amour qui fait qu'on se débrouille, qui fait que même quand les petits-enfants viennent, alors on fait pas le plein quand on est endetté parce qu'on peut pas payer un plein, on ne le fait que quand les petits-enfants viennent pendant les vacances.
Les apparences sont sauves.
Comme ça les apparences sont sauves, mais parce que chez Gisèle, et elle s'arrange toujours quand il y a cette saisie justement des huissiers chez eux, son mari est au chômage, elle n'est pas là, elle travaille, et leur fille assiste à cette scène dévastée. Et elle dit, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. On va toujours se débrouiller. Donc je pense que l'aspect économique n'est pas la première de ses préoccupations. Cette économie-là doit servir.
Mais elle ne l'ignore pas, en tout cas.
Ah non, parce qu'elle travaille et effectivement, comme vous dites, elle paie ses dettes. Et elle fait attention. Et elle fait attention dans le supermarché, elle fait attention quand elle fait le plein de la voiture, elle s'achète des vêtements en solde, elle use la semelle, elle me parlait toujours de ses petites baskets Ben Simon quand ils étaient à Mazan, où ils avaient vraiment encore du surendettement, dont elle l'a porté jusqu'à avoir des trous sous ses chaussures. Mais tout ça sert un objectif. L'amour, la cohésion familiale, les liens, et bon, jusqu'à l'aveuglement. Mais c'était ça, c'est ça la dimension essentielle chez Gisèle.
Isabelle Guérin, c'est un cas, d'une certaine façon, assez... Il y a beaucoup des dimensions qu'on retrouve dans votre livre à travers cette histoire singulière et particulière.
Oui, moi, il y a plusieurs choses. Il y a la première, donc vous la connaissez beaucoup mieux que moi, je ne la connais pas, donc effectivement, il y a cette faille affective qu'on voit bien dans le livre, et en même temps, je reste sur l'idée que cette dimension économique a quand même façonné la faille de son époux et a certainement exacerbé cette volonté qu'il avait de soumettre cette femme insoumise et qui l'empêchait lui d'assurer ce rôle de pourvoyeur. Et on voit bien l'entremêlement entre ces différents types de dettes. Effectivement, on a un cas d'école là. Absolument, et qui montre à quel point aussi, à quel point des trajectoires individuelles ont beaucoup à nous dire sur la société dans son ensemble, en fait. Hein. Et qu'au-delà des failles et de la psyché extrêmement complexe de cet homme, il y a quand même derrière des failles sociétales absolument terrifiantes. Et puis l'autre aspect, c'est la dimension fondamentalement politique et de sa posture, en fait. Hein. Alors, elle se dit elle-même qu'elle ne se voit pas comme une féministe radicale. Et en même temps, son parcours et ce livre sont éminemment politiques. Moi, mon obsession qui a été toutes ces années de comprendre d'où vient cette dette et comment on peut imaginer d'autres futurs, elle propose quelque chose. Il y a eu ce huis clos qu'elle a refusé. Et puis, elle a démarré l'émission dans la grande librairie « Je suis debout ». Elle termine son livre « Je veux dire que je suis vivante ». C'est-à-dire se refuser d'être enfermée dans une position de victime, dépressive, qui surprend beaucoup de ses interlocuteurs tout au long de ce parcours, qui souhaiteraient voir une femme complètement effondrée, écrasée. Il y a des échos quelque part avec ces femmes que je décris dans ce livre qui sont écrasées par cette dette patriarcale qui les exploite, qui les assèche, qui les appauvrit, qui les épuise, et en même temps cette quête de dignité permanente la honte change, il faut que la honte change de camp, son geste contribue fondamentalement à cela, et même si elle n'est pas une féministe radicale, il y a une posture véritablement radicale dans ce qu'elle fait.
De toute façon, son histoire, c'est l'histoire d'une mue, c'est l'histoire d'une grande évolution. Je pense que c'est encore une femme en pleine évolution, mais comme nous toutes, j'espère. Et alors, ce choix de la joie, de la combativité, moi je pense vraiment qu'elle le tient de ces mécanismes de défense qu'elle développe dans l'enfance. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a presque quelque chose d'inversé. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lui parler de la figure de son père, à laquelle elle est très attachée. qui lui est pas un homme, au contraire, c'est un homme abattu, c'est un homme défait, c'est un homme mélancolique, triste, qui réinstalle une femme dans cette famille qui va devenir la femme autoritaire, la femme qui tient les comptes encore, mais qui prive. C'est le dessert ou la pomme, c'est
la
qui coupe l'eau, c'est la belle-mère, la marâtre dans toute sa splendeur, qui coupe l'eau quand Gisèle se rince les cheveux parce qu'il faut pas payer trop d'eau chaude. Donc elle a eu, je pense, dans son enfance, une figure d'homme, hein, la figure de son père, qui n'est pas exactement la figure de l'homme dominant. Elle a eu des femmes fortes, qui prennent en exactement toutes les femmes que vous décriviez, la grand-mère, même la mère qui sait qu'elle va mourir, mais qui fait face avec sourire. Et puis les hommes, et notamment son père, son frère, des hommes affaiblis, des hommes meurtris, son père ne peut plus, la société lui donne le rôle d'époux, de père, mais il n'arrive plus à remplir son rôle, c'est un homme dévasté. Et je pense que ça a compté. Et elle rencontre Dominique Pellicot, qui est lui aussi un homme abîmé, qui vit sous la coupe d'un homme tyrannique, son père, et qui se veut l'anti, qui se veut l'inverse de son père, qui se veut justement le défenseur de sa mère. Et c'est intéressant de voir que finalement Dominique Pellicot, qui par son héritage voulait justement être autre chose...
Dominé par son frère aussi.
Dominé par un frère qui fait des études, qu'il ne fait pas. Dominé par un père tyrannique qui lui prend son argent. Et qui est ce fils qui regarde sa mère se faire abîmer, battre, violer par son père. Et qui va vouloir renverser ça et qui pourtant va revenir, va rétablir dans sa propre famille des décennies après ce qu'il a vu chez lui, ce schéma effectivement traditionnel. Donc oui, c'est très très politique. C'est très politique.
Merci beaucoup, Judith Perrignon, Gisèle Pellicot et La Joie de Vivre. Vous l'avez coécrit ensemble, Isabelle Guérin, La Femme Endettée. Deux livres très différents et en même temps qui parlent de la même chose et qui sont très importants tous les deux aujourd'hui. On trouve les références bibliographiques sur la page de l'émission.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Rubrique actualité, on ne change pas vraiment de sujet, en tous les cas on continue à parler d'argent. On en parle à propos du 10e anniversaire du numéro 10, puisque cette revue ne sort qu'une fois par an, de la revue Transborder Photographique Histoire Société. Avec vous, Christian Joschke, vous êtes l'un des directeurs de la publication de ce gros volume qui paraît aux éditions Macula, dans un travail graphique et typographique particulièrement soigné. Qu'est-ce qui vous a... Alors peut-être avant de vous demander qu'est-ce qui vous a conduit à choisir l'argent pour fêter ces 10 ans de la revue, deux mots sur cette revue et son ambition éditoriale.
Oui, c'est un projet éditorial que nous menons, Olivier Lugon et moi-même, avec toute une équipe de rédaction franco-suisse à l'Université de Lausanne, de Genève, à Paris, ici, consacrée à l'histoire des images d'enregistrement, à l'histoire de la photographie, pris du point de vue des conditions sociales, économiques et culturelles du médium photographique. Donc, c'est pas uniquement une revue d'histoire de l'art, même si on y parle aussi de photographie artistique, mais une histoire, une revue consacrée à l'histoire de notre rapport aux images depuis l'invention des images d'enregistrement. Et progressivement, la revue a évolué vers un champ qui est apparu dans les années 2010 et qui, au fond, tire ses racines de l'histoire des médias de McLuhan, c'est l'archéologie des médias. Et c'est ce qui nous fait toucher à des thèmes qui sont un peu périphériques par rapport à l'objet photographique lui-même, mais qui sont absolument centraux dans notre culture visuelle. La question des images de la télévision, des images transmises, des technologies de communication, tous ces sujets sont aussi abordés dans cette revue.
Alors l'argent, donc, thème du numéro 10 qui vient de paraître. Quand on dit argent et photographie, on pense tout de suite argentique aussi, parce que cette dimension matérielle de la photographie qu'on a tendance peut-être à oublier avec la mutation numérique reste très importante.
Dans la langue française, l'argent a deux significations. Ça signifie ça désigne le minerai et ça désigne aussi la monnaie. Ce qu'on n'a pas dans les autres langues. Silver, en anglais, ça n'est pas money. En allemand, Silber, ça n'est pas Geld qui tire son origine de Gold, l'or, etc., etc. Donc, en français, la contraction de ces deux significations nous a amené à réunir ces deux questions, c'est-à-dire la matérialité de l'image photographique, qui jusqu'au tournant numérique a été très liée à l'existence de l'argent comme matière première, et l'argent comme monnaie, c'est-à-dire l'intrication des questions monétaires économiques et des questions liées aux images d'enregistrement. Alors, il y a deux façons d'aborder ces questions. C'est d'abord, évidemment, de s'interroger sur les conditions matérielles et économiques de la fabrication, de la commercialisation, de la circulation des images d'enregistrement. En somme, sur l'institutionnalisation ou sur les institutions de la valeur marchande de la photographie, pas uniquement sur le marché de l'art, mais de manière générale sur l'objet photographique. Mais aussi, chose qui était sans doute moins consciente dans l'esprit des historiennes et des historiens, comment la production visuelle s'est progressivement immiscée dans tous les secteurs de l'activité économique et financière. C'est un adjuvant indispensable à l'économie capitaliste. D'abord, évidemment, on pense à la publicité, ça c'est presque une évidence, mais les images d'enregistrement, les technologies de communication ont un rôle très important dans le processus de production industrielle, les études chronophotographiques sur le mouvement, jusqu'à aujourd'hui la prise de vue automatisée dans les chaînes de production, mais aussi les technologies de communication visuelle ont un rôle aussi dans l'accélération des flux financiers, dans l'activité des bourses, etc.
Alors, vous vous intéressez dans ce numéro à différentes choses et notamment à ces aspects matériels, aux questions d'extractivisme en particulier, que vous documentez à travers différents articles.
Oui, alors l'extractivisme est une question qui a émergé maintenant depuis un certain nombre d'années, depuis peut-être une dizaine d'années, y compris sur le champ des disciplines qui s'occupent des symboles, des activités culturelles. La photographie est une économie, c'est une économie fondée sur l'extraction de matières premières, l'argent, mais pas uniquement l'argent, le nitrate, le soufre, toutes ces matières qui ont créé l'objet photographique. Il y a une exposition qui a été absolument déterminante dans ces réflexions, Mining Photography, présentée à divers endroits à Hambourg et à Winterthur en Suisse, qui a lancé en quelque sorte dans le grand public cette question de la photographie dans toute sa matérialité. Et c'est ce qui c'est à cette question que répond une partie de notre dossier. Je prendrai un exemple, celui de la question de l'argent à la fin du 19e siècle et le rapport que la valeur monétaire de l'argent a avec l'essor de l'entreprise Kodak. En 1873, le dollar qui était indexé sur l'argent est désindexé parce que l'État fédéral endetté doit payer ses dettes et cette désindexation permet le retrait progressif de la monnaie papier de la circulation et donc et crée une déflation avec des conséquences économiques très difficiles. Et là, je pense à la dette, étant donné que les agriculteurs américains se retrouvent dans la situation de plus pouvoir payer leurs dettes puisque le prix des marchandises, des produits de l'agriculture baissent et leur dette reste la même. Et ça offre d'ailleurs le thème de toute une série de campagnes électorales, le parti populiste défendant l'idée de réindexer le dollar sur l'argent. Or, donc l'argent perd sa valeur. Il perd sa valeur à tel point qu'une once d'argent en 1873, c'est 1,73 dollars. En 92, c'est 0,88. Donc l'argent divise par deux sa valeur. L'entreprise Kodak prospère sur la chute des cours de l'argent.
Dont
elle a besoin pour fabriquer les plaques aux gélatines au mur et les pellicules.
Alors ça c'est un axe, mais il y en a un autre qui concerne l'impression de l'argent. J'ai pris pour illustrer cette émission le travail d'une artiste britannique qui surimprime sur les billets de banque traditionnels des livres britanniques des visages de femmes à la place de ceux des hommes. Et là c'est Adam Smith qui est remplacé par une chimiste dont malheureusement j'ai oublié le nom. On peut le retrouver sur la légende sur la page de l'émission très facilement. Et de la même façon, vous vous êtes intéressé à ça. Je disais tout à l'heure que Gisèle Pelicou avait commencé sa vie professionnelle chez un imprimeur qui imprimait des chéquiers. Vous êtes intéressé aux chéquiers dans ce numéro, de la même façon qu'aux billets de banque?
À l'impression des billets de banque, à la circulation aussi des chèques postaux, la lecture optique du papier, c'est un article de Daniela Tsetti, l'article de Louise Van Berg-Gouble qui traite de l'impression des billets de banque avant et après le tournant numérique, c'est-à-dire la transformation radicale des technologies d'impression qui utilisent la photographie mais de façon différente après le tournant numérique. Et on peut ajouter à toutes ces questions qui sont liées à l'utilisation de l'image photographique ou de la lecture optique dans la création de la monnaie, dans la circulation de la monnaie, d'autres thématiques qui sont aussi au sommaire de ce numéro, notamment l'utilisation de la télévision boursière dans la bourse de Zurich pour transmettre de manière très rudimentaire à l'époque, dans les années 70-80, de transmettre les informations boursières, donc en direct, par voie de télévision.
On trouve aussi, on n'a pas le temps de tout développer, mais des réflexions sur la dimension capitaliste au fond de la photographie. On parle bien de banque d'images, par exemple. Vous vous y intéressez à travers un certain nombre de grandes agences comme Magnum, Gamma ou Rafo, qui sont aussi des stocks, qui sont des capitaux, des collections d'images.
C'est un sujet essentiel. Ça a été d'ailleurs le thème d'une exposition qui a eu lieu en 2020-2021 au Jeu de Paume, le supermarché des images, qui était coordonné par Peter Zandi et Emmanuel Aloha et Marta Ponza. C'est le sujet aussi du livre, ou d'abord d'un projet d'exposition d'Estelle Blaschke et Armin Linke, Image Capital, qui était présenté au Centre Pompidou. Estelle Blaschke a travaillé sur les banques d'images. Et en effet, à différents moments dans le sommaire de la revue, nous traitons de la valeur de la photographie qui n'est pas une valeur d'objet d'art, mais réellement de trésor pour ces grandes banques d'images.
Un mot peut-être, Christian Joschke, pour terminer sur l'ouverture du numéro, publié une série d'un grand artiste, Alan Sekula.
Oui. Alors, Alan Sekula, il faut dire d'abord que le numéro offre plusieurs, enfin, bénéficie l'intervention artistique de différents artistes comme Maura Davy, Franck Perrin, Jules Spinach, Wolfgang Tillmans, qui fait l'ouverture du numéro, et Pierre Le Guillon. Et le premier article est celui d'Alan Sekula, Canadian Notes. C'est la première et unique traduction en français d'un essai et d'une série photographique qu'il a fait autour de la Banque du Canada. Et Alan Sekula établit ce reportage sur l'architecture du bâtiment inauguré en 1969 d'Arthur Erickson pour la Banque du Canada, et qu'il met en lien avec d'abord le tournant des économies libérales et le tournant libéral des économies nationales, et aussi la proximité des mines de nickel. Et ce texte est absolument fondamental.
Je vous renvoie donc à ce magnifique numéro Transborder Photographie, Histoire, Société, Thème, L'argent, publié chez Macula. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Aurélie Marsay et Sorge Leroy.